Après quoi, on peut déjà commencer à enregistrer. Tu fais jusqu'à la fin de la prédication, hein, Philippe. Merci. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous te remercions de pouvoir encore être réunis ce matin autour de ta parole pour t'adorer, pour te louer, pour apprendre aussi, afin de nous parfaire dans notre comportement. J'en ai besoin, nous en avons tous besoin. Merci, Seigneur, de nous rendre humbles ce matin pour recevoir ta parole et afin de pouvoir la mettre en pratique de mieux en mieux pour te plaire et pour être agréable. Merci Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié ce matin. Veuille bénir tous ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, les garder dans ta paix. Merci Jésus. Amen. Amen. Alors, je crois que Stéphane nous a préparé un chant, c'est le numéro 9, nous allons le chanter ensemble. Bonjour, vous qui nous rejoignez sur Internet, Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Ce chant, vous le connaissez sûrement, c'est « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient ». C'est le chant préféré de notre sœur Simone. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Son amour, oui, son amour ne s'éloignera pas de moi. Son amour, oui, son amour ne s'éloignera pas de moi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Amen, amen. Merci les musiciens, Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, nous allons passer à la parole de Dieu. Bonjour à vous qui nous rejoignez sur la télé. J'espère que chez vous, il fait plus chaud que chez nous. Chez nous ici, on a les pieds gelés. Enfin, merci quand même à notre frère Olivier qui est venu faire le feu ce matin. Voilà, il y a le feu dans l'église. Amen. Il y a le feu ? Oui. On va lire un passage dans les Écritures au psaume 62, versets 6 à 13. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Vous voyez, il se parle à lui-même. Il se dit, allez, vas-y mon âme. Reste pas comme ça, planté comme un vieux cornichon. Hein? Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car c'est de lui que vient l'espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher, c'est lui qui est mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Ensuite, il continue. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Ah bon, ma gloire, oui, ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge et mon Dieu, du verbe être, c'est-à-dire le rocher de ma force et mon refuge, c'est mon Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté. Car tu rends à chacun selon son œuvre. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. J'entends souvent des chrétiens qui me disent « Je suis inutile » ou « On me juge inutile ». Je parle un peu lentement ce matin parce qu'on a notre frère Charef qui est là et il est en train de traduire en même temps pour notre sœur Lucia, alors je parle un peu lentement pour qu'il ait le temps de traduire là-bas au fond dans la chapelle. Certains me disent aussi « Je n'arrive pas à éveiller l'amour des autres ». Et combien de fois j'ai entendu « Personne ne reconnaît mon talent » ou « Mes rêves ne sont pas respectés ». Alors pour tous ces gens, il y a un des trois mots les plus puissants de la Bible que Dieu veut leur dire, et en particulier ce matin. C'est le mot « espérance ». Espérance. Dans notre beau pays de France, on sait qu'il y a des millions de chômeurs, beaucoup cherchent très sérieusement du travail. Eh bien, une porte finira par s'ouvrir. Espérance. Il y a ceux qui se réveillent le matin avec un cœur épouvantablement lourd. Ils se disent à eux-mêmes, je suis inutile. Vous voyez, David, il disait à son âme, il disait, confie-toi en l'Éternel. Ne dites pas à votre cœur, je suis inutile. Quand vous dites, je suis inutile, vous prenez le nom de Dieu, parce que le nom de Dieu, c'est je suis. Il a dit à Moïse, va leur dire, je m'appelle, mon nom, c'est je suis. Quand tu dis, je suis inutile, tu veux dire, Dieu est inutile. Beaucoup pensent, je vis parce que je dois survivre, mais personne, absolument personne ne s'intéresse à ce que je suis, ni à ce que je fais. Beaucoup de gens sont comme ça. En France, on bat les records pour les somnifères et pour les trucs qui vous réveillent le matin parce que le somnifère fait encore son effet. C'est un malheur, c'est un mal-être. Ces gens-là, ils ont développé une conviction, ils sont convaincus que le monde entier peut se passer d'eux. Ou bien, ils pensent, pardon, ça c'est l'hiver, hein. Ou bien ils pensent, je suis trop jeune, ou alors ils pensent, je suis trop vieux, enfin il y a toujours quelque chose. Et je me souviens, quand j'écrivais mon premier livre, Le Veilleur, eh bien chaque soir, je jetais ce que j'avais écrit parce que je pensais que ça n'intéresserait personne. Et puis, c'est Renaud Robinet, un ami, frère, qui m'a dit, écoute, ne fais plus ça, donne-moi tes feuilles le soir, et puis moi, je les mets de côté. Et puis, on verra bien si c'est cohérent à la fin. Et c'est comme ça que le livre est sorti quelque temps après. Mais j'avais besoin d'aide. Il y a ceux qui bossent et qui disent, demain, si je suis licencié, personne ne remarquera mon absence. Et puis il y a les personnes âgées les plus vieux, qui ont acquis de l'expérience, qui ont acquis une maturité, évidemment, qui ont appris beaucoup au milieu d'adversités de toutes sortes, mais quand l'heure arrive de transmettre leur savoir, ça n'intéresse personne. Et les jeunes leur disent, mais papy, mamie, le monde a changé, c'est plus comme ça que ça marche. Ben oui, c'est comme ça, hein. Le monde a changé. Mais frères et sœurs, le sentiment d'inutilité, ça ronge. Le sentiment d'inutilité, il n'a aucun respect. Alors beaucoup se tournent vers la religion. La religion maintenant, c'est fou, hein. Et alors, ça leur donne une certaine grandeur. On travaille pour le Seigneur. Alors ils se transforment en dévots. Ça commence par ça, puis ensuite ils se transforment en évangélistes. Les plus osés s'autoproclament prophètes. Et puis finalement, ils se transforment en fanatiques. C'est en général le processus. Ils ne comprennent pas que la religion de Jésus a été faite pour partager les mystères et l'adoration. Dieu, ça signifie objet d'adoration. Jamais la religion de Jésus a été créée pour faire le mal aux autres. Mes frères et sœurs, la plus grande manifestation du miracle de Dieu, C'est la vie. C'est la vie. Et Jésus pleura sur Jérusalem. Et Jésus pleura sur Jérusalem. Pourquoi ? Parce que cette compréhension de l'amour de Dieu avait disparu. Et dans l'Église primitive, vous lirez ça dans Apocalypse 2, quand il est écrit à l'Église d'Éphèse, je t'en veux parce que tu as abandonné ton premier amour. Voilà, l'amour de la vie. Oh mes frères et sœurs, bientôt c'est le printemps. Vous irez dans les champs et vous allez voir des milliers de fleurs. Penchez-vous, mettez-vous à plat ventre dans le champ. Comme on a vu l'autre jour avec les frères et sœurs, on a regardé à l'est d'Eden. Et on voit James Dean qui se met à plat ventre dans le champ puis qui regarde ses haricots qui poussent. Vous savez qu'aujourd'hui, aujourd'hui même, ça serait son anniversaire, il aurait 84 ans, vous rendez compte? 84 ans, l'âge de Rachel. Eh bien, mettez-vous à plat ventre dans le champ de fleurs, là, bientôt au printemps, et puis demandez à une fleur si elle se sent inutile. Demandez-lui. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que de reproduire des fleurs semblables à elle. Quel destin! Mais si elle pouvait te répondre, je suis sûr que la fleur, elle te dirait, je suis belle et la beauté en soi, c'est ma raison de vivre. Voilà. Demande à la Seine qui coule à Paris ou à la Maritsa en Bulgarie. Demande à la Seine si elle se sent inutile parce qu'elle coule toujours dans le même sens. Qu'est-ce qu'elle pourrait te répondre si elle savait parler? Eh bien, la Seine, elle te dirait la même chose que la Maritsa. Elle te dirait, je n'essaye pas d'être utile, j'essaye d'être un fleuve. J'essaye d'être un fleuve. Alors, mon frère, ma sœur, toi qui te sens inutile, toi qui te sens rejeté, toi qui as peut-être été rejeté, voilà ce que le Seigneur te dit ce matin. Rien ni personne n'est inutile à mes yeux. Quand tu dis « je suis inutile », en fait, c'est une réponse que tu te donnes toi-même à la question que tu as posée toi-même. Alors, arrête de te poser cette question et puis arrête de te donner cette réponse. Si tu arrêtes de te poser cette question, tu arrêteras inévitablement de t'imposer cette réponse idiote. Tu n'es pas inutile. Et si tu continue à te poser cette question, mais suis-je utile finalement? Est-ce que je serai quelque chose? Et puis que tu en arrives à te dire, non, je ne serai rien, je suis inutile et tout. Tu vas t'empoisonner. Et comme tu vas t'empoisonner, ben, tu vas empoisonner tout ton entourage et puis tu vas te retrouver seul par ta propre faute, encore plus seul que tu n'es seul. Vous comprenez? Ça ne sera pas une œuvre de destruction du diable. Ça sera ta propre œuvre de destruction personnelle. Le diable n'a rien à faire. La plupart du temps, les gens se débrouillent très très bien pour se détruire. Alors tu marcheras, tu mangeras, tu dormiras, tu essaieras de t'amuser un peu, hein, mais tu seras qu'un zombie en réalité, c'est-à-dire un mort-vivant, tout simplement parce que tu n'auras pas cru ce que je te dis là de la part du Seigneur. La religion de Jésus, elle sert à partager les mystères et l'adoration. Pas à envoyer en enfer tous ceux qui ne croient pas comme toi. La religion de Jésus est la plus grande manifestation du miracle de Dieu, c'est-à-dire la vie. Dans la Bible, il est écrit, la véritable religion, c'est de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, d'aider les gens. C'est ça la religion. C'est pas être pétri de doctrine et de machin. Moi, je peux très bien vivre avec quelqu'un qui ne pense pas, qui n'a pas la même doctrine que moi. Je crois que je vous l'ai prouvé pendant plus de 15 ans ici, sur cette estrade même. Alors, n'essaye pas d'être utile, essaye d'être toi-même. Je te promets, ça suffira. Et ça fera toute la différence. Sois toi-même. À la communauté, il y a des gens qui vivent avec moi depuis plus de 30 ans. Et ils me connaissent bien. Mais qu'ils se rassurent, je les connais bien aussi. Alors, ils savent que j'aime bien rigoler. Là, vous m'entendez prêcher tout le temps, mais vous savez pas comment je suis quand je suis dans la vie, j'allais dire entre guillemets normale, c'est-à-dire j'aime bien la rigolade. Des fois même, je déraille dans la grossièreté. Et bon, ben voilà. Pourquoi est-ce qu'ils restent avec moi ces gens depuis tant d'années? Eh bien, parce qu'ils m'aiment, c'est tout. Parce qu'ils savent que je me montre tel que je suis. C'est tout. Ils savent que souvent, je suis surprenant par mes propos, par mes comportements. Ils le savent, je suis comme ça. Ils savent aussi que je me lie facilement d'amitié. Et c'est vrai que j'aime quand même, mais ils le savent très bien. Ils me connaissent et ils m'aiment depuis tout ce temps-là parce qu'ils savent que je ne suis pas une autre personne que ce que je montre. C'est tout. Je suis ce que je suis. Je suis vif d'esprit. J'ai une intelligence assez froide. Je tranche rapidement. J'aime le stress. Le stress, ça me donne une impression d'exister. S'il y a des choses à faire, s'il y a des projets, ça, c'est génial. Je persévère dans ce que je vis, dans ce que je crois. J'ai besoin d'action. Mon cardiologue me disait l'autre jour, oui, vous avez beaucoup de tension, mais finalement, je crois que c'est parce que si vous aviez pas autant de tension, si vous aviez pas tout stress, vous éteindriez, vous arrêtez de revivre, parce que vous aimez quand ça bouge. Je dis oui, ça, c'est tout à fait ça, j'aime quand ça bouge. Et j'ai besoin de tout ça pour garder ma bonne humeur. Alors des fois, je suis insupportable. Qui n'est pas insupportable? Des fois, je suis insupportable, je suis exigeant, je suis perfectionniste, mais aucun n'est surpris par cela dans notre communauté. Pourquoi? Parce qu'ils me connaissent. C'est pas tout d'un coup là, il y a 15 jours, d'un coup je viens de me rendre compte que Michel parfois il est insupportable. Ça fait 30 ans. Ils savent très bien que j'aime convaincre les autres, que j'ai le sens de la persuasion, que j'appuie fortement, parfois j'use de mon autorité pour imposer mon idée parce que je déteste le désordre. J'ai un vieux maniaque, voilà. Depuis 30 ans, ils me connaissent avec ces qualités-là, avec ces défauts. Pourquoi? Pourquoi ils restent? Parce qu'ils aiment la personne que je suis, c'est tout. Et pourquoi je reste avec eux? Parce que j'aime la personne qu'ils sont, très différent. Alors montrez-vous, soyez vous-même, n'ayez pas peur d'être vous. C'est ça le plus important, c'est que vous soyez vous-même. Vous êtes chrétien, ok, vous allez pouvoir faire des progrès, ok, je fais des progrès. Je ne veux pas vous dire lesquels, vous allez rire si je dis les progrès que je fais. Mais je fais des progrès, et je fais encore, et vous en faites tous. Vous êtes chrétien, ok, mais personne ne pense que vous êtes parfait. Personne ne s'illusionne à votre sujet. Vous êtes incohérent, et alors? On s'en fout. Reconnaissez-le que vous êtes parfois incohérent. Laissez-vous aimer tel que vous êtes. On vous aime bien avec votre incohérence. Avec votre grain de folie. On vous aime bien comme ça. L'autre jour, dans ma colère, parce que, ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis des fois un peu colérique, c'est-à-dire, tout va bien, puis donc, je vais sauter dans un machin, de moins en moins, ça m'arrive plus qu'une ou deux fois par an, hein, c'est vrai, avant c'était tous les 15 jours, hein, mais je me suis assagi, j'ai appris, voilà. Et puis j'arrive même à ne plus me ronger les ongles, ça fait 20 ans. Parce que je suis nerveux. L'autre jour, dans la colère, j'ai traité un frère de raté, j'ai dit, t'es un raté. C'est horrible de dire une chose pareille. Je regrette de l'avoir dit, je regrette. Parce que c'est pas un raté. Simplement, il rate souvent des trucs. Et des trucs importants. Et c'est dommage. Mais je l'aime comme il est, puis c'est tout, quoi. Et puis, il me connaît depuis 30 ans, bien sûr. Ça l'a blessé, bien sûr, ça lui a fait bobo au cœur, c'est sûr. Que je lui ai dit qu'il est un raté. Et je lui demande publiquement pardon ce matin. Voilà, je te demande pardon, je ne vais pas dire le nom, parce qu'après tout le monde va dire, ah oui, un tel, il rate des choses. Non, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas t'humilier, mon frère. Mais voilà, je suis comme ça, je suis excessif. Alors? Et alors? Vous êtes comment, vous? Soyez vous-même. Ne jouez pas au super spirituel. Personne n'y croit. Personne n'y croit. Vous n'êtes pas parfait. Tout le monde le sait. On ne se fait pas d'illusions. Et puis on s'en fout, vous n'êtes pas parfait. On vous aime tel que vous êtes. Vous m'aimez tel que je suis ?
Oui.
Ouais, ben moi aussi je vous aime tel que vous êtes. Laissez-vous aimer tel que vous êtes. Vous avez un don. Et alors ? Laissez-moi vous le dire. Votre don n'est pas plus parfait que vous. C'est comme ça. Même si c'est un don de guérison, même si c'est un don de prophétie ou de discernement des esprits, alors admettez-le, admettez-le et laissez-moi vous aimer tel que vous êtes. Par contre, d'un côté, moi, ce que je n'aime pas, c'est, j'arrive pas à avaler, c'est l'infaillibilité. Ceux qui essaient de nous faire croire qu'ils sont infaillibles. L'Éternel a dit, et il ne faut pas changer une virgule, c'est comme ça. Non, alors là, ça vaut jamais, je peux pas avaler un truc comme ça, c'est le pape, c'est oh, je déteste. Mais enfin, si vous êtes comme ça, je vais faire des efforts, je vais vous aimer quand même. Mais montrez-vous tel que vous êtes. Si vous essayez de me faire croire que vous et votre don, vous êtes infaillible, je vais vous parler un moment, pour essayer de vous faire revenir à la raison, à l'enseignement biblique, mais si vous n'avez pas l'humilité de reconnaître que ni vous, ni votre don n'est infaillible, ben je vais vous fuir, c'est tout, parce que je veux la paix. Je veux la paix, c'est ce que j'aime le plus, c'est la paix. J'aime la paix plus que le château, j'aime la paix, je veux la paix. Pourtant j'aime beaucoup mon château, mais bon, je préfère la paix. Eh bien de même, beaucoup de ceux qui se croient inutiles font fuir les autres. Parce que ce n'est pas vrai, vous n'êtes pas inutile. C'est pas vrai. Personne n'est inutile. Autant que personne n'est parfait, personne n'est un raté. Personne. Alors, n'essaye pas d'être utile. Essaye d'être toi. N'essaye pas d'être parfait. Essaye d'être toi. Ce sera déjà pas mal. Ça suffira amplement. Et je te garantis, ça fera toute la différence. Ne marche pas plus vite, ni plus lentement que ton âme, c'est-à-dire que ton être. Si tu marches à ta juste vitesse, si tu as cette humilité, eh bien tu vas apprendre quelle est ton utilité. Je vais vous raconter une petite histoire vraie, authentique. C'est une histoire qui est arrivée à ma maman, elle m'a raconté. Un jour, elle n'était pas encore ma mère, puisqu'elle était toute jeune. Elle venait de divorcer d'avec un mari violent, qui était un gangster international. Il faisait du trafic de drogue entre la Suisse et la... de drogue. D'or entre la Suisse et la France, c'était un triste sire. C'était... Mais elle était tellement naïve qu'elle l'avait épousé, parce qu'il avait su la séduire et tout. Il la battait, il était mauvais comme tout. Bon, elle a divorcé, mais vous savez, on ne sort pas de là indemne d'un divorce et tout. Elle se sentait sale, elle se sentait mal. Et un dimanche matin, les cloches de l'église Saint-Laurent sonnaient, et puis elle ne connaissait pas Dieu, donc elle n'est pas rentrée dans l'église, elle est allée chez ses parents, rue Saint-Laurent, et comme elle était en train de monter les escaliers près de la Palue, là, à Lausanne, elle montait les escaliers et tout, elle était triste, très triste, elle avait les yeux pleins de larmes et des idées très sombres, je vous explique pas. Elle montait ses marches et un petit garçon de, je sais pas, 7-8 ans, elle ne savait pas elle-même, la croise en courant, vous savez, comme les enfants quand ils courent dans les escaliers. Et soudain, elle se retourne et il lui dit « Madame !» Et ma maman s'est retournée. Puis elle a regardé le petit garçon. Il avait les yeux clairs, les cheveux blonds, un grand sourire. Et ce gamin lui a dit « Bonne journée, madame !» Cet enfant a sauvé la vie de celle qui allait devenir ma maman quelques années plus tard, sans le savoir. Il a été immensément utile, ce petit garçon, juste avec un peu de gentillesse, juste avec un petit grain de folie, d'interpeller une dame qu'il venait de croiser et de lui dire « Bonjour madame ». Alors ne dis pas « Je suis inutile », sois toi-même. Donne ne serait-ce qu'un sourire, un simple sourire, sans motif, sans raison, à quelqu'un que tu croises par hasard dans la rue. L'autre jour, j'étais avec Michou à Paris, et j'ai vu un homme dans la rue. Il était arrêté, vous savez, il y a des distributeurs d'argent, et il a pris de l'argent là, et discrètement, il l'a donné à une dame. J'ai vu le geste. Et j'ai pensé, ça, c'est de l'amour. Et j'ai pensé, ça, c'est du christianisme en action. Sans avoir la moindre intention, tu peux sauver quelqu'un, tu peux sauver la vie d'un inconnu, tu peux redonner du courage à un désespéré qui lui aussi se jugeait inutile. Fais le bilan de ta vie. Tu ne pourras jamais savoir précisément quand tu as été utile aux autres. Mais Dieu le sait. Dieu le sait. Et beaucoup d'autres gens le savent. C'est ça le mystère dont je te parlais tout à l'heure. Quand je disais que la religion, c'est partager le mystère de Dieu. La vie. Être soi-même, c'est partager le mystère de Dieu. C'est partager la vie. Alors, personne, la vie d'aucune personne est inutile. Chaque personne est venue sur cette terre pour une raison. Pour une raison. Efforce-toi simplement de vivre ce que tu as toujours désiré vivre. Je me rappelle un jour, on était allé voir un film avec Dominique Boisset. Et puis, dans la salle, il y a eu une panne, alors on a dû sortir. Et puis, on est allé boire un demi dans un bistrot sur une petite place là-bas à Chartres. Et puis je dis à Dominique, mais c'est quoi ton désir? Qu'est-ce que tu aimerais? Il me dit, ben, il y a deux choses que j'ai toujours voulu et que je n'ai jamais fait. Et je dis, c'est quoi? Il me dit, j'aimerais m'acheter un costume blanc et puis j'aimerais aller aux États-Unis. Eh bien, on l'a fait. C'était pas bonnard? C'était super, hein, Dominique? On le refera. Cette fois avec un costume orange, ce sera très joli aussi un costume orange. On le refera. Fais les choses que tu as toujours désiré faire. Sois toi-même. Reconnais, voilà, j'aimerais faire ça. Il y a des choses que tu aimerais. Fais-les. Réjouis-toi dans le Seigneur. Il faut toujours que ça soit dans le Seigneur, évidemment. Ainsi, Dieu pourra te combler de bénédictions. Amen. Merci Jésus de m'avoir donné ce message pour encourager mes frères et sœurs, pour me donner l'occasion de demander pardon aussi et de bénir les uns les autres, ceux qui sont découragés peut-être et qui ne comprennent pas bien ce qui est en train de se passer. Merci Seigneur parce que nous savons que tout ça c'est entre tes mains, que tu veux le bien de tes enfants et nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu es en train de nous préparer. Merci Seigneur Jésus de nous conduire, de nous guider, de nous aider à voir clair et à toujours rester dans ton plan. Dans ce bon rétablissement de ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va chanter quelques chants. On va dire le Seigneur.